France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Soleillante. La peine de mort abolie dès le début du XXe siècle, cela peut nous sembler inimaginable aujourd'hui. Mais on est passé tout près en France. En 1906 en effet, la guillotine semble vivre ses derniers instants. Il se trouve que le gouvernement a déposé un projet de loi pour rayer la peine capitale du code pénal. Mais oui, et tous les voyants politiques semblent au vert pour qu'il soit voté. Ce qui serait une consécration pour le chef de l'État, Armand Vallière, fervent abolitionniste, qui gracie systématiquement les condamnés à mort. Mais un fait divers, sordide, ultra-médiatisé, qui suscite l'émotion et l'indignation générale, va tout faire basculer. Une petite fille, Marthe, disparue depuis plusieurs jours, est retrouvée morte. Et quand le chef de l'État décide une fois encore de gracier son meurtrier, Albert Soleillande, c'est le tollé. Les politiques s'inclinent, l'abolition attendra plus de 70 ans avant d'aboutir. Notre invité aujourd'hui, Arnaud-Dominique Hout, historien et auteur du livre « Les peurs de la belle époque », publié en 2022 chez Talendier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct et en partenariat aujourd'hui avec le site Retro News de la BNF. Récit documentaire Margot Budge, rédaction chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
31 janvier 1907, Paris, 11e arrondissement. Pour la petite Marthe, 11 ans, on est jeudi, donc jour sans école. Ce matin, elle a joué avec ses petites camarades, puis elle est rentrée déjeuner avec sa mère, sa petite sœur et ses frères dans leur appartement de la très populaire rue Saint-Maur. Tiens, on frappe à la porte. C'est Albert, un ami de ses parents. Marthe tend l'oreille et l'entend dire à sa mère qu'il a obtenu 2 billets de faveur pour le café-concert à Bataclan. Oui, à Bataclan, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, à cette époque qualifiée de belle. Marthe retient son souffle. La femme d'Albert ne lui a-t-elle pas promis qu'elle l'emmènerait au spectacle? Oui, et c'est pour ça qu'Albert est là aujourd'hui. Il est venu chercher la petite pour la conduire à Julienne, son épouse, qui l'accompagnera à Bataclan cet après-midi. Enfin, si maman est d'accord, on verra. Mais déjà, Marthe exulte. Elle adore Julienne. Et surtout, elle rêve de pénétrer dans ce bâtiment aux airs de pagode, toujours bondé de petits et de grands, le Bataclan.
Et voici ce que dit le guide des plaisirs à Paris, écoutez ça. Sous ce joyeux pavillon chinois, inondé de lumière, où la cymbale retentit, le public du boulevard, du quartier Voltaire, du quartier du Temple, le négociant cossu, l'ouvrier ébéniste, les vieux messieurs décorés et les familles bourgeoises, viennent pêle-mêle prendre leur part des désopilantes joyeusetés de Bataclan.
Marthe supplie, laisse-moi y aller maman. Sa mère hésite. Cet après-midi, il y a catéchisme et Marthe communie bientôt, c'est important. Mais la mère le sait, sa fille n'aura peut-être pas d'autre occasion d'aller au spectacle. Et gratuitement, qui plus est. C'est qu'on n'est pas riche dans cette famille ouvrière. Les sorties, exceptionnelles, se résument souvent à un tour au bois de Vincennes. Alors la mère dit à sa fille, « Bon, d'accord, hein, mais change de vêtements. Tu ne peux tout de même pas aller à Bataclan affidée comme tous les jours. » Bien, Marthe enfile une robe à carreaux et visse un chapeau en feutre bleu marine sur sa tête. Endimanchée, mais heureuse. D'ailleurs, elle est déjà sur le palier et elle dévale les escaliers 4 à 4. Albert sur les talons. « À tout à l'heure », lance-t-elle gaiement sa mère. Il n'y aura pas de tout à l'heure. Notre fille Marthe a disparu. C'est avec ces mots pétris d'angoisse qu'un couple se présente vers 22h au commissariat du quartier Saint-Ambroise. Ils s'appellent Marie et Nicolas Herbelding. Ils sont accompagnés d'un homme, un certain Albert Soleillande, qui a l'air aussi affolé que les parents. Car Marthe s'est volatilisée alors qu'elle était placée sous sa surveillance. Soleillande raconte au policier « En début d'après-midi, je suis allé chercher la petite Marthe chez ses parents, puis je l'ai emmenée à pied chez moi, rue de Charonne, pour la confier à ma femme, Julienne. Elle devait aller à Bataclan avec la gamine. Elle n'a pas pu se libérer, vous comprenez? Trop de travail à l'atelier, des baleines de corset à fabriquer, en plus avec son patron en colère. Bon, elle pouvait pas faire autrement, alors moi, pour pas décevoir la gamine, j'ai décidé de l'emmener moi-même au spectacle. » Et dans sa déposition, il poursuit.
Nous sommes rendus à Bataclan où nous sommes arrivés à 2h10. Nous avons été placés au fauteuil du premier étage. Nous avons demandé deux cafés crème qui nous ont été servis par un garçon âgé de 30 à 35 ans. Il était à ce moment 2h et quelques minutes. Vers 3h, l'enfant m'a dit qu'elle avait besoin d'aller au cabinet. Elle m'a quitté, je ne l'ai plus revue. Au bout de 10 minutes, voyant qu'elle ne revenait pas, j'ai pensé qu'elle n'avait pas retrouvé sa place. Et avant de quitter l'endroit où je me trouvais, j'ai visité le pourtour. Voyant qu'elle ne se trouvait plus à l'intérieur, je suis descendu et ai visité les alentours de cet établissement. Et ne la retrouvant pas, je suis remonté pour ressortir au bout de 5 minutes.
L'homme semble terriblement affecté. Il pleure. Mais pour l'inspecteur Lebrun, son histoire n'est pas nette. Car le premier réflexe de ce Léandre n'a pas été de prévenir le personnel de Bataclan de la disparition de la fillette, comme l'aurait fait n'importe qui, non ? Quelle légèreté, soit dit au passage. Alors le policier s'adresse aux parents, Erdbelding. Soupçonnez-vous ce Léandre de s'en être pris à votre fille ? Mais absolument pas, répond-il en cœur. Ça fait 10 ans qu'ils connaissent Albert. Du temps où Marie Erdbelding faisait le ménage chez les parents de ce Léandre. Bon, ils sont très liés. Quand Albert s'est mis à la colle avec Julienne, ils ont pris le jeune couple sous leur aile. Monsieur Erdbelding, estampeur, a même fait embaucher Soleillant d'un temps. Non, le couple est formel. Jamais Soleillant n'aurait fait de mal à Marthe, qu'il aime beaucoup et qu'il a dû grandir. D'ailleurs, ne se démène-t-il pas comme eux depuis des heures pour essayer de retrouver la fillette ? Oui, enfin, les policiers se penchent tout de même sur le profil d'Albert Soleillant. Il a 26 ans, il est ébéniste de formation et enchaîne de petits emplois qu'il a bien du mal à garder. Et il a déjà eu affaire à la justice, comme l'explique l'historien Renaud Tomaso dans Une histoire particulière sur France Culture.
On s'aperçoit tout de suite grâce aux fichiers de la police, parce que l'administration policière est déjà redoutable et efficace, et s'aperçoivent que le nommé Soleillant était déjà sous le coup d'une condamnation pour des histoires d'escroquerie, mais il n'avait pas payé, donc ça permet aux inspecteurs de la sûreté de déjà le retenir. On parlerait aujourd'hui de garde à vue.
Le 1er février, au lendemain de sa disparition, Marthe n'a toujours pas été retrouvée. Alors, les enquêteurs de la sûreté se rendent à Bataclan, Soleillant sous bonne garde et la photo de Marthe dans la poche. Il s'agit d'effectuer une reconstitution de la disparition de la fillette. Et surtout, confronter les dires de Soleillande à ceux du personnel. Eh bien, la visite est fructueuse. Personne parmi les ouvreuses ou les garçons de café n'a aperçu ni Soleillande ni Marthe. Et Soleillande est incapable de dire ce qu'il a vu sur scène, de surcroît. Je me souviens de Madame Godet qui m'a frappé par ses chansons grivoises et ses petites manières, raconte-t-il. Oui, sauf que Madame Godet, d'ordinaire à l'affiche, était grippée ce jour-là. Elle a dû être remplacée par un homme. Une différence qui se remarque tout de même. Et quand on demande à ce Léandre la couleur du ticket qu'on lui a remis en échange de son billet de faveur, et qu'il n'a pas pu produire, il indique qu'il était rouge. Mauvaise pioche, il était vert. Autant dire que les enquêteurs ont rapidement la conviction qu'il n'est jamais allé à Bataclan. En revanche, il semble bien qu'il se soit rendu chez lui avec l'enfant, car on y a retrouvé le parapluie de la gamine. Marthe et moi n'y sommes restés que 10 minutes avant de partir au café-concert, affirme Soleillande. Un témoignage qui va tout faire basculer. Marie Leps habite en face de chez Soleillande, et cette fabricante d'agrafes l'assure, le 31 janvier, lorsqu'elle venait de livrer une commande pour son travail, elle a aperçu une petite fille d'une dizaine d'années à la fenêtre de son voisin. « Oh, ça n'a duré qu'une seconde », raconte-t-elle. Soleillande a fait entrer l'enfant, qui n'avait pas l'air apeuré. En tout cas, Madame Leps est certaine de l'heure à laquelle s'est déroulée cette scène. C'est justement en regardant la pendule qui trône sur la boutique de l'horloger de la rue de Charonne que son regard s'est posé sur l'enfant. Et il était à ce moment-là 14h30. À savoir, l'heure où Soleillande et la petite Marthe auraient dû être à Bataclan pour voir le spectacle. Aïe, Soleillande est accusé, acculé. L'inspecteur le presse de questions. Qu'avez-vous fait de l'enfant ? Le 9 février, le suspect, décidément très suspect, s'effondre. La tête entre les mains, il passe aux aveux.
J'ai commis un acte de folie. Je croyais retrouver ma femme à la maison lorsque je suis parti du domicile des Herbelding avec la petite Marthe. Ma femme n'était plus là, j'ai voulu quand même aller au concert. Non, je ne veux pas y aller sans Julienne, a dit la petite Marthe. Nous sommes restés, je l'ai taquinée, j'ai joué avec elle, puis j'ai voulu la caresser pour la faire rester, car elle voulait s'en aller seule chez ses parents. En voulant la retenir, j'ai senti le corps de cette fillette dans mes bras. Je l'ai pressée, elle a crié pour empêcher ses cris. Je l'ai serrée à la gorge. Elle est tombée inanimée, morte. Je n'ai pas violé l'enfant. Je demande pardon de ce que j'ai fait.
Sally Ann confesse avoir ficelé le corps dans une toile d'emballage et l'avoir porté à la consigne de la gare de l'Est. Alors les enquêteurs s'y précipitent. Et là, vision d'horreur. Le petit cadavre est là. 9 jours ont passé depuis le trépas, mais le froid glacial de l'hiver a préservé les chairs. Marthe a été étranglée, mais aussi poignardée en plein cœur et violée, conclut l'autopsie. Côté police, l'enquête est bouclée. Mais pour la presse, l'affaire ne fait que commencer. En cette année 1907, les faits divers sont devenus prépondérants dans les colonnes des grands journaux populaires. Petit Parisien, Petit Journal, Le Matin, tous ont compris que le récit de crime, facile à lire, c'est vrai, et racoleur, souvent, permet à leurs numéros vendus à la criée de s'écouler comme des petits pains. Surtout en multipliant chaque jour les rebondissements. Alors les reporters font le tour des commissariats, des morgues, des marchands de vin, des concierges, cherchant à dénicher des affaires sanglantes. De ce point de vue, l'affaire de la petite Marthe, c'est du pain béni pour les plus mitifs de la presse de caniveau. Pensez donc à l'infanticide, la transgression absolue. Autant dire que les journaux l'exploitent en abondance, et on se perd en conjectures. L'enfant n'aurait-il pas été enlevé par un groupe d'apaches, ces voyous qui affolent le pavé parisien, histoire d'alimenter un trafic de prostitution? Maintenant que Soleillande a avoué, et que le corps de la petite fille a été retrouvé, il s'agit dès lors de se pencher sur la douleur des familles. Alors, les journalistes défilent chez les parents de Marthe et chez la femme de Soleillande pour recueillir leurs témoignages et pleurer. Oh, ça ne va pas sans quelques bavures. À la minute où le corps sans vie de Marthe est retrouvé, les gratte-papiers du petit journal se précipitent chez les parents pour leur annoncer eux-mêmes la sinistre nouvelle et obtenir la primeur de leur réaction. Et ils n'y mettent pas les formes. Foudroyé par le choc, le père de Marthe, de santé fragile, fait une commotion cérébrale. L'affaire est tellement médiatisée qu'elle devient celle de tous. Des parents modestes, sans histoire, voient la chair de leur chair emportée par un misérable auquel ils accordaient leur confiance. Comment ne pas s'identifier et compatir? Le jour des funérailles, auquel la presse convie les Parisiens, ils sont des dizaines de milliers à accompagner Marthe dans son dernier voyage, de l'église Saint-Ambroise jusqu'au cimetière de Pantin. Le petit journal écrit
« Le bruit fait par la foule est énorme. » Les commentaires, les cris, les appels se croisent. Mais dès que paraît la tête du cortège, un silence impressionnant s'établit. Les femmes en larmes se signent, les hommes se découvrent, et les mamans qui ont leurs enfants devant elles leur disent avec émotion « N'oublie pas de te découvrir devant le corbillard. C'est une petite fille de ton âge qui a été assassinée et qu'on enterre. »
Une fois le cercueil passé, l'agitation reprend. Et au recueillement succède l'indignation. On entend distinctement, ici et là, à mort, Soleillande, des cris qui résonnent comme une supplique lancée aux autorités. Car chacun le sait, si Soleillande est condamné à mort, il pourrait bien ne pas être exécuté. Voilà 2 ans que la peine capitale n'est plus appliquée en France. Elle n'est pas rayée du code pénal, bien sûr, et elle est même régulièrement prononcée par les jurys d'assises. Mais le président de la République, Armand Fallières, fervent abolitionniste et représentant une gauche modérée, gracie systématiquement les condamnés à mort, comme y autorise la Constitution. Au grand dam évidemment des magistrats, des politiques de droite et de la presse populaire, le petit Parisien en tête, très attaché à la loi du talion. Mais Fallières persiste, signe et va plus loin. Et avec lui les députés socialistes, qui ont réussi à obtenir une majorité parlementaire pour voter justement la suppression des crédits alloués aux bourreaux. C'est un premier pas. Le ministre de la Justice a même déposé un projet de loi, fin 1906, pour que la peine de mort soit officiellement supprimée du code pénal au profit d'une incarcération perpétuelle, comme en Italie ou en Belgique. L'abolition de la peine de mort, si chère à Victor Hugo, semble en bonne voie sous cette République parlementaire où le Parti radical socialiste donne le ton. Évidemment, chez les partisans de la peine capitale, on hurle. Et on espère que le meurtre de la petite Marthe, dont l'opinion s'est largement emparée, viendra réactiver la guillotine. Mais d'abord, il faut juger, Soleillant.
Silence ! Je préviens qu'à la première manifestation, je fais évacuer la salle.
22 juillet 1907, cour d'assises de la Seine. En ce jour d'ouverture du procès, on joue des coudes pour apercevoir l'accusé. Et le voilà qui rentre, l'air plutôt distingué sous son costume sobre et sa moustache bien peignée. L'intransigeant écrit
« Tout ce qu'aurait pu dire ce misérable pour sa défense, c'est qu'il est mieux que ses portraits. On nous le présentait avec une tête hirsute d'apache des boulevards extérieurs et nous nous trouvons en face d'un de ces jeunes et presque élégants commis de magasin qui disent à la cliente « Et avec cela, madame, qu'est-ce qu'il vous faut ?»
À côté du prévenu qui baisse les yeux, se tient son avocat, maître Robert Bernstein, qui ne se fait guère d'illusions sur l'issue du procès. L'infanticide est désormais perçu comme crime suprême. Et puis avec un tel battage médiatique, la condamnation à mort de son client semble inévitable. Son espoir, tout de même, obtenir des circonstances atténuantes. Pour cela, il faudrait que Soleillant soit déclaré fou. Le fait que le meurtrier ait, selon ses dires, oublié d'avoir poignardé et violé sa victime pourrait être considéré comme le signe que Soleillant n'a pas toute sa tête, qu'il a agi dans un état second. Mais le docteur Dupré, médecin aliéniste qui a procédé à un examen mental de l'accusé, comme le ferait un psychiatre aujourd'hui, ne l'entend pas ainsi.
Soleillant ne porte pas de stigmate physique ou psychique de dégénérescence. Ce n'est ni un sadique, ni un hystérique, ni un épileptique, ni un démon. L'amnésie partielle, systématique, discordante et utilitaire dont il largue a tous les caractères de la dissimulation. Il a accompli son crime en pleine lucidité et en pleine conscience. Son acte a pu revêtir son caractère d'horreur grâce à un accès d'ivresse érotique. Il est capable de rendre des comptes à la justice.
Le médecin l'affirme, Soleillant est pleinement responsable de ses actes. Et il a tout du prédateur. D'ailleurs, le témoignage de la belle-sœur de l'accusé qui vient à la barre fait froid dans le dos. Soleillant aurait tenté de la violer par le passé, sous la menace d'un poignard. Alors l'avocat général, Paul Trouariol, se lance dans un réquisitoire sans concession. Quand dans une société, il existe un monstre, on le supprime. C'est un devoir et vous l'accomplirez. À vos ordres, les jurés se retirent pour accomplir. Car les débats sont vite pliés. Le tour de table ne prend que 20 minutes. Le 23 juillet 1907, Albert Soleillant est condamné à mort. À cette annonce, l'accusé blanchit et se ratatine sur son siège. Julienne Soleillant, tout de noir vêtue comme si elle était déjà veuve, se dresse. C'est rencontrer le petit Camille de 4 ans. Elle hurle en direction de son mari. « Misérable, tu as déshonoré notre enfant, laisse-moi te tuer. » La presse se délecte. Voilà une scène poignante, théâtrale, dramatique. La propre épouse de l'accusé, qui ne l'avait pas chargé jusque-là, souhaite la mort de Soleillant. Excellent pour le spectacle. Et puis surtout, comment le président de la République pourrait-il le gracier, celui-là? Et pourtant...
That open so wide, there's nothing beyond them and no one inside. You kick off your sandal and shake out your hair, the salt on your shoulders like sparks in the air. There's silt on your ankles and sand on your feet, the river too shallow, the ocean too deep. You smile at your suffering, the sweetest reprieve. Why did you leave us? Why did you leave? You kick off your sandals and shake out your hair. It's torn where you're dancing, it's torn everywhere. It's torn on the right and it's torn on the left. It's torn in the center, which few can accept. beauty, it's torn where there's death. It's torn where there's mercy, but torn somewhat less. It's torn in the highest, from kingdom to crown. The messages fly, but the network is down. Bruise at the shoulder and cut at the wrist. The sea rushes home to its thimble of mist. The opposites falter, the spirals reverse, and Eve must re-enter the sleep of her birth. And up through the system, the worlds are withdrawn from every dominion the mind stood upon. And now that it's over, and now that it's done, the name has no number, not even the one. Come gather the pieces, all scattered and lost. The lie in what's holy, the light in what's not. The story's been written, the letter's been sealed. You gave me a lily, but now it's a field. You kick off your sandals and shake out your hair. It's torn where you're dancing, it's torn everywhere.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Soleillande, ou l'abolition de la peine de mort empêchée.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
13 septembre 1907, château de Rambouillet, résidence présidentielle. Le président de la République, Armand Falière, reçoit dans son bureau l'avocat Robert Bernstein. Il tient à lui faire savoir qu'il s'apprête à gracier son client, Albert Soleillande. Il ne faut pas voir cela comme un acte de clémence pour un individu méprisable qui ne m'en mérite aucune, précise-t-il. Mais une simple commutation de peine. Soleillande ira aux travaux forcés en Guyane à perpétuité. L'avocat remercie d'un regard le chef de l'État, s'il osait le féliciterait pour son courage. Oui, du courage il en faut pour rester aligné avec ses convictions, ses principes, sa haine de la peine de mort et sa volonté de la voir abolir. Car voici 2 mois que Falière roule sous les pétitions et les courriers d'associations de mères de famille qui le supplient de ne pas s'opposer à la mort d'un assassin d'enfant. Et 2 mois que les journaux conservateurs ou populaires, ça va souvent ensemble, alimentent l'idée qu'une grâce de Soleillande serait intolérable. Plusieurs titres ont même raconté que l'envoyé au bagne de Cayenne reviendrait ni plus ni moins à l'envoyer en villégiature sous les palétuviers. On voit qu'ils n'y sont jamais allés. Une prime à l'assassinat, selon le petit journal. Voilà bien une manipulation de l'opinion. Parce que même si Albert Londres n'est pas encore venu révéler les réalités de ce qu'on surnomme la guillotine sèche, le bagne, les journalistes ne peuvent ignorer les conditions carcérales effroyables, la dureté du climat et les taux de mortalité démentiels qui entourent les travaux forcés en Guyane, l'enfer sur terre, dantesque, barbare. En signant la grâce de Soleillande, Falière sait qu'il va déclencher des tonnerres de protestations. Et cela ne manque pas. Le journal La Presse écrit.
C'est par des cris de colère et d'indignation qu'a été accueillie la nouvelle dans les quartiers populaires, aussi bien que dans les quartiers mondains ou commerçants. Par contre, la grâce de Soleillant a plongé dans l'allégresse tous les apaches qui infestent Paris, menacent la sécurité des passants, commettent chaque jour d'ignobles exploits et traitent la capitale de la France en ville conquise, où ils ont la certitude de pouvoir désormais piller, voler, assassiner, violenter les femmes et les fillettes en toute quiétude.
Non, décidément, la grâce de Soleillant ne passe pas. Car en cette belle époque, résonne une petite musique moins belle. On n'a jamais aussi été peu protégé en France. Depuis la fin du 19e siècle, la violence a pris de nouveaux visages. Les apaches, figures de la délinquance juvénile urbaine, multiplient les rixes en plein Paris. Des groupes de bandits, bandes à pollets en tête, s'introduisent chez les gens dans les campagnes pour les torturer, les dévaliser. Le nombre d'homicides est en augmentation depuis 1903, tandis que la tolérance à la violence, elle, diminue. Et comme la presse à grand tirage adore capitaliser sur les récits de crimes, en les dramatisant, l'angoisse et le sentiment d'insécurité vivent un âge d'or. Un peu comme aujourd'hui du reste. Le danger du couteau et du revolver nous menace à chaque carrefour, à chaque coin de rue, non seulement quand la nuit est venue, mais dans la pleine clarté du jour, écrit le petit Parisien, toujours aussi modéré. Dans ce contexte troublé, l'impuissance de la police, le laxisme réel ou supposé de la justice et l'humanitarisme du gouvernement, je cite, hein, est constamment étrié. Quant à la guillotine, elle est vue par beaucoup comme le seul moyen de dissuader les criminels en puissance, la solution définitive à la récidive. Le 16 septembre 1907, à l'initiative d'un groupe de mères de famille dont l'appel est relayé par le petit journal, encore lui, la foule est dans la rue. Plusieurs groupes de manifestants se rassemblent. Et sur les boulevards parisiens résonnent les cris de « Abat les protecteurs de Soleillande !»« Guillotine !»« Justice !»« À mort !» Au milieu des slogans, on entend chantonner la complainte de la lettre à Falière, composée pour l'occasion.
Non, pas de pitié, il vous faut châtier, l'assassin s'attire. Et qu'à l'échafaud, on livre au bourreau ce monstre vampire. Car pour l'avenir, ce serait soutenir l'horreur et le crime. Nos petits enfants sont trop par souvent leurs victimes.
En haut lieu, on redoute que Soleillande ne soit enlevée par la foule. Car certains journaux l'affirment, il n'y aura bientôt plus que le lynchage pour rendre la justice en France si la peine de mort n'y a plus cours. Alors Soleillande est rapidement exfiltrée de sa prison de la Conciergerie, direction le pénitencier de l'île de Ré, en attendant de prendre le prochain bateau pour la Guyane. C'est sous le matricule 5249 qu'il est embarqué, entouré de 600 relégués et forçats. Déjà pour un voyage épouvantable à fond de cale, puis sur les îles du Salut, ce bagnard de troisième catégorie sera destiné aux travaux les plus durs et tenu au silence. Soleillande ne le sait pas encore, mais il survivra 12 ans à cette horreur avant d'être emporté par la tuberculose. Pendant ce temps, à Paris, les débats qui se sont cristallisés autour de son affaire sont plus brûlants que jamais. Et pour cause, le projet de loi sur l'abolition de la peine de mort doit prochainement être mis en discussion à l'Assemblée. Et le petit Parisien, auto-revendiqué le plus fort tirage des journaux du monde entier, mais avant tout populiste, entend bien peser sur le débat à venir. Alors, à la fin de l'année 1907, il se lance dans une entreprise inédite, inspirée des méthodes américaines. Un grand référendum assorti d'un jeu concours qui permet de faire gagner de nombreux lots à ceux qui auront su voter comme la majorité. La question étant, êtes-vous, oui ou non, partisan de la peine de mort ?
Notre référendum, est-il besoin de le dire, n'a aucun caractère politique. Mais nous serions néanmoins très heureux que nos législateurs, dont beaucoup se sont également émus de la recrudescence des crimes dans notre beau pays de France, enfissent leur profit quand les résultats en seront connus et que le gouvernement tient compte des indications précises qu'il fournira. C'est sous la pression de l'opinion publique que dans la plupart des États, un grand nombre de réformes sont chaque jour accomplies. Les lecteurs du Petit Parisien, qui sont légion et forment une masse intelligente et consciente, doivent être les premiers à faire connaître de quelle façon il convient de résoudre l'un des problèmes les plus émouvants de leur présente au moment où la peine de mort, inscrite dans notre code, est peut-être à la veille d'y être supprimée d'un simple trait de plume.
Les résultats sont sans appel. Ils sont plus d'un million de personnes à se déclarer favorables à la peine capitale et moins de 329 000 à se dire contre. Le petit Parisien peut exulter. L'avis qu'il a lui-même plébiscité à longueur d'article sort largement majoritaire. Dans les quotidiens de gauche, l'Humanité et le Radical en tête, évidemment on s'insurge. On dénonce des méthodes de propagande, une instrumentalisation de l'opinion. Mais aux yeux de beaucoup, ce référendum, même organisé par un média pro-peine de mort, a un poids démocratique réel. Le peuple a tranché pour que les têtes continuent de l'être. Mais qu'en sera-t-il des députés ? Juillet 1908, à l'Assemblée nationale, c'est l'effervescence. Les débats entourant le projet de loi d'abolition de la peine de mort s'apprêtent à démarrer. Et pour les abolitionnistes, l'horizon s'annonce bouché. Ils ont d'ailleurs tout fait pour retarder la discussion à la Chambre. Le gouvernement le sait, le vent a tourné. La commission parlementaire de la réforme judiciaire, qui s'était d'abord prononcée pour l'abolition, a fait savoir qu'elle considère désormais que les temps ne sont pas mûrs pour une telle réforme. Et certains députés, républicains modérés, très sensibles aux fluctuations de l'opinion, retournent leur veste. Ils ne défendront plus l'abolition de la peine de mort comme ils l'avaient fait 2 ans plus tôt, lors du vote de la suppression des crédits du bourreau. L'affaire Soleillande et son intense exploitation par la presse populaire est passée par là, évidemment. Mais subsistent plusieurs figures de proue prêtes à monter au créneau. L'historien Jean-Marc Berlière revient sur ses joutes oratoires dans une histoire particulière sur France Culture.
Très, très beau débat. Des plus beaux débats parlementaires que j'ai lus. Hein. D'un côté, donc, les humanistes. Hein. Clémenceau se mêle pas à ça, il est quand même président du Conseil. Bon, on sait ce qu'il pense. Hein. Mais vous avez Briand, vous avez Jaurès, hein, des discours formidables. Et puis, en face, vous avez des gens comme Barrès. Hein. En gros, le propos des gens favorables à la peine de mort, c'est quand un corps est gangréné, on coupe le membre gangréné. Et puis, il y a cette idée sans cesse soulevée, c'est si on supprime la peine de mort, comment la société va se défendre, ça va développer le crime, ça va multiplier les criminels. Alors qu'on sait bien que c'est faux, mais peu importe. Hein.
Et oui, il a été démontré que les pays ayant aboli la peine de mort, Belgique et Italie, n'ont pas eu à faire face à une augmentation de la criminalité. Et sur les bancs des abolitionnistes, on entend bien le faire savoir. Un débat s'engage alors sur la nature des criminels. À droite, on se réfère au test de Lombroso, indiquant que certains individus sont des criminels nés, des dégénérés, et qu'il faut donc les châtier sans pitié. À gauche, on argue que c'est la société faiseuse d'inégalités qui joue un rôle prépondérant dans le développement de la criminalité et qu'elle n'a donc pas le droit de supprimer les criminels. Voilà. Ainsi, Jean Jaurès déclare.
C'est trop commode de créer ainsi un abîme entre les coupables et les innocents. Il y a, des uns aux autres, une chaîne de responsabilité. Il y a une part de solidarité. Nous sommes solidaires de tous les hommes, même dans le crime. C'est pour détourner la part des responsabilités sociales qu'on essaie de dresser l'échafaud.
Alors vient la question des peines alternatives. Par quoi substituer la guillotine ? La prison ? Trop confortable, selon le député Gérard Varret. Et il y a toujours le risque de pouvoir en sortir. Tout comme au bagne. Tu parles. Le bagnard évadé périt le plus souvent noyé dans l'océan, ou découpé en morceaux, soit par des populations autochtones, soit par des chasseurs de têtes, blancs et sans pitié. Parmi les abolitionnistes d'hier, aujourd'hui repentis, ils sont nombreux à arguer que si l'abolition de la peine de mort reste moralement souhaitable, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, non. Il faudrait d'abord enrayer la criminalité, mettre en place des peines de remplacement qui aient le temps de faire leurs preuves, et ainsi rassurer l'opinion. Le 8 décembre 1908, le verdict tombe comme un coup près, si j'ose dire. L'abolition est rejetée par 330 voix contre 201. Devant un tel camouflet, le président Armand Falière ne prendra plus le risque de gracier un condamné à mort de peur de déchaîner la colère. Le 11 janvier 1909, c'est au cri de « Vive la guillotine retrouvée !» que le bourreau Anatole Deblair est accueilli devant la prison de Béthune pour exécuter les membres de la bande appelée. Et voilà, rideau. Pendant 70 ans, la peine de mort ne sera plus discutée au Parlement. Jusqu'à son abolition en 1981. Et là encore, un meurtre d'enfant, celui du petit Philippe Bertrand par le dénommé Patrick Henry, aurait pu empêcher l'abolition d'aboutir. Car ce crime a indigné l'opinion au moins autant que le meurtre de la petite Marthe. Plus de 70 ans après l'affaire Soleillande, il faut croire que le temps était enfin venu pour en finir avec la loi du talion.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Soleillande dont nous parlons avec notre invité Arnaud-Dominique Hout. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste des questions de sécurité au 19e siècle et aussi au début du 20e siècle. Et vous avez publié en 2022 chez Talendier le livre Les peurs de la belle époque, crimes, attentats, catastrophes et autres périls. Belle époque d'ailleurs, j'imagine qu'on ne disait pas à l'époque nous vivons une belle époque, c'est un truc d'historien ?
Oui, enfin, c'est un truc de témoin, en réalité. C'est-à-dire que l'expression apparaît à la fin des années 30, au moment où, justement, ceux qui ont vécu cette belle époque s'en souviennent avec nostalgie, avec, évidemment, les déformations liées à l'expérience de la guerre et donc le sentiment que c'était mieux avant.
Et puisque j'y suis, les années folles, après la Première Guerre, hein, en fait, entre deux guerres, tu sais, toujours entre deux guerres. Pourquoi les années folles, on l'a dit après coup?
Oui, c'est ça. On est toujours entre deux guerres, finalement, au XXe siècle. Hein, c'est un peu désespérant. Années folles, c'est une expression qui apparaît déjà à l'époque. Elle est utilisée parce qu'il y a ce sentiment, justement, qu'il faut sortir du deuil de la guerre. La différence avec la Belle Époque, c'est que la Belle Époque, personne n'avait le sentiment de vivre une belle époque. Hein.
C'est, mais oui.
C'est vraiment une reconstruction nostalgique.
Alors, Belle Époque, pas pour tout le monde, parce que on se sent aussi très peu en sécurité en France, en ce début du XXe siècle, c'est ce que semble nous dire ce récit. Alors, la presse est Mélusien aussi, on y reviendra sur la presse. Mais que se passe-t-il à cette époque d'un point de vue sécuritaire?
En fait, il y a tout un ensemble de paramètres. Il y a en fait une période de progrès, mais aussi une période d'inégalité. Et quand vous mettez les deux ensemble, vous produisez la possibilité d'une délinquance. Et notamment, ce qui est assez nouveau, d'une délinquance, de nouveaux types de vols, liés au fait qu'il y a plus de consommation, plus de choses à voler, et donc une augmentation, effectivement, d'une délinquance qui n'est pas forcément très grave, mais qui marque les esprits. Vous ajoutez à ça une force de frappe médiatique qui permet justement de donner beaucoup plus de visibilité, une caisse de résonance justement à tous les délits et à tous les crimes. Et avec ça, vous avez évidemment un sentiment d'insécurité. Qui peut, en plus, c'est vrai, se nourrir du sentiment que la police et la gendarmerie ont un temps de retard. Il y a une image qui est très emblématique à l'époque, dans les années 1900, c'est l'idée que les malfaiteurs utilisent le train et l'automobile quand les gendarmes sont à bicyclette.
Alors vous savez qu'il y a une grande appétence pour le fait divers en ce moment. Hein. Alors c'est dû à un tas de choses, on n'a pas le temps de développer ici, mais il y a notamment un argument plus ou moins vrai qui dit les faits divers disent beaucoup de choses de l'humanité, de l'histoire, de l'endroit où ils se passent. C'est parfois vrai, c'est parfois pas vrai du tout. Là en revanche c'est très très vrai quand même. Un fait divers arrive à bloquer une réforme fondamentale avec l'aide de la presse. Est-ce que la presse avait déjà aussi était aussi forte en France?
Sans doute pas. Là, on traverse à ce moment-là véritablement un âge d'or de la presse. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a eu des progrès techniques. On peut imprimer beaucoup plus vite en renouvelant l'information pour un coût beaucoup moins élevé. La presse est très bon marché à l'époque. La plupart des journaux sont à un sou. C'est la plus petite pièce du porte-monnaie. Vous ajoutez à ça que quasiment tous les Français savent lire et écrire. C'est l'effet de la scolarisation du 19e siècle. Vous ajoutez que la presse est libre. La loi de 1881, qui est toujours en vigueur, c'est justement une loi de la Troisième République. Et avec tout ça, vous avez tout un écosystème. Il y a un point qui est important, c'est qu'en fait, la presse, on la lit, mais on la voit aussi à la devanture des kiosques. Il y a beaucoup d'illustrations, les gens regardent, même quand ils n'achètent pas. Et puis, ils entendent, parce qu'il y a des camelots, des crieurs de journaux, qui, dans les rues, justement, crient les titres. Et ça, c'est quelque chose qui crée toute une ambiance sonore où l'actualité est très présente.
Alors, la presse force le trait, parfois, mais enfin, il y a quand même un fond de vérité. Donc, je reviens sur le contexte sécuritaire. Il y a notamment cette bande qui s'appelle les Apaches.
Oui, alors c'est une expression qui apparaît justement dans la presse, quelques années avant l'affaire Soleillant. C'est une expression qu'on utilise parce que le mot Apache est un mot un peu à la mode. À l'époque, il y a une fascination pour les États-Unis, pour le monde américain, pour le western. Et donc, l'Apache, c'est le grand méchant. Et il se trouve qu'on a dans le Paris, et dans les villes d'ailleurs, plus au-delà de Paris, du début du XXe siècle, le sentiment qu'il y a une délinquance juvénile. C'est ça qui caractérise vraiment l'époque. Le sentiment que les délinquants sont plus jeunes, qu'ils sont plus organisés, qu'ils sont tatoués. Et le tatouage renvoie aussi à l'image de l'Indien et de l'Apache.
Oui, et de l'Apache, oui.
Et donc, on va fabriquer justement cette peur. Alors, c'est vrai que ça sort pas de rien. Hein. Il y a effectivement, très probablement, une transformation de nature de la délinquance qui est liée en fait aux transformations de Paris. Il y a une croissance économique forte, l'industrie se déplace vers la banlieue, et en fait, il y a toute une jeunesse à Paris qui sait plus très bien quoi faire et qui va être justement un petit peu attrapée dans un contexte criminel, dans des phénomènes de bande. Et donc, ces phénomènes de bande vont être fortement médiatisés.
Dans les campagnes également, ça c'est plus étonnant, ouais. Notamment la bande à Paulet, apparemment c'est grave, on va chez les gens, on les saucissonne, ouais. Parfois on les tue, parfois on les torture, c'est une horreur.
Ah oui, alors ça c'est vraiment pour le coup en 1906-1907, vous avez la bande Paulet, on les appelle aussi les bandits d'Asbrook, parce que c'est dans le nord de la France, c'est à la frontière belge. Eux, ils ont une caractéristique assez maligne, c'est qu'ils passent la frontière. Et donc, en passant sans arrêt la frontière, qui est très poreuse entre France et Belgique, ils échappent aux policiers français et belges réciproquement. On a au même moment les chauffeurs de la Drôme, on les appelle comme ça parce qu'ils brûlent les pieds.
Les pieds, oui, les chauffeurs de la Drôme, effectivement.
On a aussi, c'est plus poétique, un groupe, alors qui est un peu fantasmé, mais qu'on surnomme la caravane à pépère.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est apparemment des groupes de Romanichel dans la région de Poitiers, à qui on prête beaucoup de crimes qu'ils n'ont pas vraiment commis. Mais
tiens donc,
c'est là qu'on retrouve. Voilà, exactement, c'est là qu'on retrouve finalement, de manière assez classique, la fabrication très factice, hein, bien sûr, de bandes qui sont en réalité beaucoup plus désorganisées que ne veulent bien le dire les journalistes et les policiers.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
La Belle Époque est une belle époque pour un temps, pour les idées progressistes, hein, puisque les années 1906-1907 constituent une période où les espoirs abolitionnistes battent leur plein, on l'a vu lors du récit. Sous cette Troisième République, il y a de grands humanistes, Jaurès, Briand, tant d'autres. Et je précise que c'est une république maçonnique. Il y a beaucoup de francs-maçons sous la Troisième République et on sait que les francs-maçons se sont toujours battus pour l'abolition de la peine de mort, plus tard pour la contraception en 67, puis plus tard pour le droit à l'avortement en 75. Est-ce que tout cet ensemble fait cette Troisième République progressiste qui avance? Et je rappelle que deux ans avant, alors c'est pas du fait divers, mais deux ans avant, cette République vote la loi de la séparation des Églises et de l'État. Donc il y a un souffle politique.
Absolument. En fait, ce qui s'est joué quelques années avant, c'est l'affaire Dreyfus. Et l'affaire Dreyfus a provoqué en fait l'obligation pour les républicains de choisir entre deux principes fondamentaux. Soit vous défendez finalement la sécurité de l'État, la raison d'État, et dans ce cas-là vous abandonnez Dreyfus et vous abandonnez les principes finalement constitutifs de la démocratie. Soit, et c'est donc le choix qui est fait, vous considérez qu'il n'y a rien de plus important que les droits de l'homme, et par conséquent vous assumez de réformer l'État et de reconnaître l'erreur judiciaire quand elle existe. C'est fondamental parce que cette nouvelle alliance qui se fait après l'affaire Dreyfus, qu'on surnomme en 1902 le Bloc des Gauches, c'est une alliance justement qui regroupe des partis politiques très différents. Jaurès, c'est un socialiste qui veut la révolution. Aristide Briand, c'est un ancien socialiste, mais il l'est plus. Lui, il défend plutôt la propriété privée, mais il veut le progrès social. Et Clémenceau, de la même manière, il veut le progrès humaniste sans être du tout sur la ligne de Jaurès. Ils font alliance, ils font la séparation de l'Église et de l'État, parce qu'ils sont d'accord là-dessus, ils font des tas de grandes réformes, mais à partir de 1905-1906, leur chemin se sépare. Ils se séparent sur une grande question, qui est celle des inégalités sociales, des réformes à faire ou à ne pas faire, des grèves et de la manière de les gérer. Et c'est important parce que, en 1906, le Bloc des Gauches se fracture en réalité. Et ce qu'on voit là, dans cette affaire Soleillan, c'est en partie aussi les conséquences de cette fracture. Parce que, d'une certaine manière, il n'y a plus de majorité. Le dernier ciment qui reste du Bloc des Gauches, c'est un peu ce ciment humaniste, ce ciment qui les rassemblait autour de l'idée qu'il fallait un progrès humain. Ce qu'on appelle à l'époque, c'est une expression d'époque, les idées humanitaires. Ça porte le projet d'abolition, mais on a bien compris qu'à ce moment-là, en réalité, une majorité qui est très fragile, qui est déjà largement divisée.
Est-ce que les radicaux sont majoritaires ?
Ils sont majoritaires, mais ils peuvent pas gouverner sans alliance.
Oui.
Et en fait, la question, mais qui est toujours la même pour le Parti radical sous toute la Troisième République, c'est font-ils alliance à gauche ou à droite?
C'est des centristes de gauche au départ.
C'est ça. Les radicaux, à l'origine, c'est des républicains. Alors, le terme radicaux peut toujours nous surprendre. Hein,
parce ça vient de Racine.
Imagine...
Ça vient de Racine.
C'est ça, ça vient de Racine. Ça veut dire qu'ils veulent une république au noyau.
Ça vient de Radici.
Exactement. Dans sa radicalité républicaine. Absolument. Donc, ils veulent les réformes. Mais en revanche, effectivement, ils sont prêts à faire des compromis. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que au début des années 1900, ils font clairement l'alliance à gauche. Et puis là, à partir de 1906, leur alliance se fait davantage avec la droite contre les socialistes.
Et concernant le poids maçonnique ?
Alors c'est un point qui est structurel, hein, c'est-à-dire que là, effectivement, dans toute l'histoire de la Troisième République, il y a une influence de la franc-maçonnerie qui s'est vraiment cristallisée avec le combat contre l'Église. Parce que là, il y a un clivage très très fort. Il faut rappeler que l'Église catholique, à la fin du 19e, est très réticente à la République. Alors, je précise
la gueuse,
bien.
La gueuse.
C'est ça. L'Église est hostile à la République, ce qui ne veut pas dire que les catholiques le soient. Mmh. Puisque les catholiques votent majoritairement républicains. Mais il y a effectivement, sur le plan institutionnel, une rivalité, un conflit que la séparation a réglé.
Alors, est-ce qu'on peut dire tout simplement qu'il était trop tôt pour que la société française se passe de la guillotine ?
Sans doute. En réalité, ce qu'on observe, c'est un peu la question de fond que pose cette histoire. Ce qu'on observe, c'est une mobilisation médiatique. Mais on ne sait pas bien si cette mobilisation médiatique représente toute la société, et donc si la société n'est pas mûre pour un changement aussi important que l'abolition, ou si ces journaux ne représentent que leurs propres intérêts. Vous avez cité le référendum d'électeurs du Petit Parisien, 1 million qui se prononcent pour la peine de mort, 300 000 contre. En vous écoutant, je me disais, 300 000 qui envoient un bulletin contre en sachant que leur avis n'a aucune chance de gagner.
C'est fort, finalement.
Ils ont du cran, exactement. Ouais. Et c'est quand même assez surprenant, en réalité. Il faut pas sous-estimer la mobilisation de ces 300 000 qui savent que leur combat est perdu à ce moment-là, mais qui y croient tout de même.
Et on a le sentiment que les meurtres d'enfants réactivent toujours les désirs de peine de mort. Alors, une fois qu'elle est abolie, alors ça devient un fantasme, hein, parce qu'on n'y reviendra pas, de toute façon, et avant qu'elle ne fût abolie, le meurtre d'enfants, c'était vraiment actionner la guillotine, quoi. On l'a vu d'ailleurs avec Patrick Henry,
oui.
Hein.
Oui, mais je pense qu'il y a quand même une évolution historique là-dessus. Et ce moment-là du début des années 1900, c'est un des premiers moments où la question de l'enfance en danger est devenue un sujet prioritaire. C'est pas forcément le cas avant au 19e siècle, où on pourrait presque... C'est une question hein, pour laquelle on n'a pas de réponse certaine, mais on pourrait presque se dire que le crime le plus grave au 19e siècle, c'est plutôt le fait de tuer le père. C'est-à-dire, on a cette vision de la société traditionnelle où le crime le plus grave, c'est tuer le chef d'État, tuer le père, tuer l'ascendant. Et finalement, on a une société qui change au 19e siècle, qui accorde beaucoup plus d'importance à l'enfance, à une enfance qu'on protège. Il y a toute une législation à la fin du 19e siècle qui vise à protéger les droits de l'enfant. Mmh. Et donc, c'est pas un hasard si, justement, à la Belle Époque, les crimes les plus atroces sont devenus les crimes qui touchent les enfants. Et bien sûr, on est resté dans ce monde-là, et ça reste évidemment notre environnement.
Il nous reste 20 secondes, mais comment se sont passés les 12 ans de réclusion de Soleillande? Parce que les bagnards ont vécu des sorts plus ou moins cruels, plus ou moins durs. Lui, c'était...
Alors, d'après ce que disent
tuberculose, il meurt d'une tuberculose.
Oui, il meurt de tuberculose. Mmh. Il a quand même passé une dizaine d'années au bagne, ce qui est beaucoup, hein, puisque c'est un taux de survie élevé. En réalité, on meurt vite quand on arrive au bagne. Et la particularité, c'est qu'il a été mis à l'isolement. En fait, il est sur l'île Royale, donc c'est des conditions
comme
de détention.
Dans la fille, d'ailleurs,
C'est à côté.
Hein, oui.
C'est un peu moins draconien, un peu moins isolé que Dreyfus, mais c'est des conditions d'isolement qui lui sauvent la vie, mais qui lui coûtent la santé.
Bien. Merci infiniment, Arnaud Dominique Hout. Au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Aujourd'hui, l'affaire Soleillande, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, à la technique. Aujourd'hui, il y avait Sofiane Actib.